écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Terroriste ce jeudi à Bamenda dans le nord-ouest, un mort et 6 blessés, dont un bébé de 11 mois, pris en charge dans les hôpitaux de la ville. Inondation dans la région de l'extrême nord, de nouvelles mesures préventives envisagées par le gouvernement. C'était ce jour au cours d'une réunion interministérielle présidée par le premier ministre chef du gouvernement. Sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale annoncé pour la remise du don du chef de l'État aux sinistrés. Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Ce film documentaire était projeté ce jeudi à Boya. Parmi les nombreux spectateurs, Peter Mafane Moussonguin, président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Journée mondiale du tourisme le 27 septembre prochain sur la paix. Coup d'envoi des activités ce jour dans le département du Mfundi. Le dossier du 20h en touriste avisé analyse les effets de l'insécurité sur cette activité socio-économique. Invité Mahama Abba Boukar, délégué départemental du tourisme et des loisirs du Mfundi. Et puis à suivre en fin de journal des nominations au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Bienvenue au journal. Un mort et 6 blessés, c'est le bilan d'une attaque terroriste survenue ce jeudi dans le 3e arrondissement de Bamenda, au lieu dit Mobile Kwen. La nouvelle était rendue publique à travers un communiqué du préfet de la Mezam, Simon-Émile Mo. L'engin explosif improvisé, selon l'autorité administrative, a détonné aux alentours de 11h. Parmi les blessés, un bébé de 11 mois. La quintessence de ce communiqué avec Laurent Chissou de CRTV Nord-Ouest.
Le communiqué radio-presse du préfet de la Mezam rapporte qu'aux environs de 11h ce jeudi, un engin explosif improvisé au lieu dit Mobile Kwen, lieu marchand, dans le 3e arrondissement de Bamenda, a été activé par des terroristes armés embusqués avec pour bilan un mort, la nommée Chung Juliette, âgée de 30 ans, ainsi que 6 personnes civiles blessées, parmi lesquelles un bébé de 11 mois. Toutes ces victimes de sexe féminin s'approvisionnaient dans le marché du coin. L'autorité administrative, tout en exprimant au nom du gouvernement ses condoléances aux familles éplorées ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés, a martelé que le gouvernement a mis tout en œuvre pour la prise en charge gratuite des victimes qui sont internées. Simon-Émile Mo, en condamnant cet acte terroriste, a exhorté les populations à rester calmes car les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour mettre la main sur les auteurs de cet acte odieux. Il a par ailleurs invité les populations à la collaboration active avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité afin de mettre hors état de nuire ces criminels sans foi ni loi qui menacent au quotidien la tranquillité et la paix sociale dans la Mezam. Hop Station Bamenda, Laurent Chissoukbe, CRTV.
Direction l'Assemblée nationale où le président a effectué une visite d'évaluation ce jour sur le site de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Kava Yegye Dibril était accompagné des membres du comité de suivi des travaux, du secrétaire général et des directeurs opérationnels de l'auguste institution. Pauline Deauville-Mendoze-Mbassi.
À date, le taux de réalisation global des travaux de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale est de 97%. Une évaluation qui fait rêver le comité de suivi des travaux, qui envisage même déjà de passer à une étape supérieure. Théodore Datou, vice-président de l'Assemblée nationale et président du comité de suivi.
Si tout se passe bien, à la fin du mois d'octobre, nous allons faire la réception technique et tout sera fin prêt pour que la session de novembre puisse se tenir dans ce nouveau palais.
Mais en attendant la réception technique de l'immeuble, les ouvriers ne vont pas chômer. le président du comité de suivi parle de ce qui reste à faire.
Ce qui reste à faire, c'est d'abord l'aménagement des parkings à l'extérieur et puis l'espace vert pour le jardin qui est en train de se mettre progressivement en place. D'ici un mois, nous pensons que rien n'empêchera la tenue de la session dans ce nouveau palais si le président le décidait.
En effectuant cette visite d'assurance et d'encouragement ce jour, le très honorable Kava Yegye Djibril a ainsi boosté le moral des troupes, leur permettant ainsi de bosser jour et nuit pour le respect des délais.
Le président de l'Assemblée nationale, qui a par ailleurs reçu ce jeudi en son cabinet les forces vives de la région de l'extrême nord, la rencontre avait pour objet d'organiser, à la suite du président de la République, une chaîne de solidarité autour des populations sinistrées suite aux inondations dans cette région en général, et particulièrement dans le département du Mayo-Danaï. Une occasion aussi pour les forces vives de la région de revisiter l'utilisation des moyens injectés par l'État pour développer la région de l'extrême nord. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, son équipe et exhorte son équipe à budgétiser les mesures préconisées pour répondre plus efficacement au phénomène des inondations. Il présidait ce jeudi à Yaoundé une réunion interministérielle consacrée à l'examen des mesures de prévention et de gestion des inondations dans les régions de l'extrême nord et du nord au lendemain de la rentrée scolaire 2024. La réunion était élargie aux gouverneurs et conseillers régionaux des localités concernées. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement de la République s'engage à prendre de nouvelles mesures préventives. Laurentine Bokono.
L'histoire des inondations dans la région de l'extrême nord et du nord peut être ainsi racontée. Au commencement, fut une abondance de précipitations excédentaires de l'ordre de 125% par rapport à la norme, du jamais vu depuis 30 ans. Face au déchaînement des forces de la nature, qu'avons-nous fait? Midiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord.
La météo l'avait très bien annoncé depuis l'an passé qu'on devrait avoir des pluies abondantes. Le chef d'État avait demandé qu'on se mobilise. Importantes sommes d'argent avaient été débloquées. Les salles de classe avaient été construites, assorties des latrines et des forages, y compris des tentes pour recevoir les personnes. Dieu merci, l'an passé, il n'y avait pas eu cette catastrophe. Mais cette année, nous avons été surpris.
Le bilan est du reste douloureux.
Il y a eu donc un pont qui s'est effondré, qui relie le secteur ouest au secteur nord. Des plantations ont été englouties. Les salles de classe, aussi bien pour le secondaire que pour le primaire. Les centres de santé. De manière générale, tout ce qui avait construit dans les zones non édificantes et donc inhabitables ont été touchés.
Que pouvons-nous faire? La question est partout lancinante. Le scénario bien connu du gouvernement camerounais, comme c'est le cas dans toutes les régions du monde, en proie aux catastrophes naturelles. Toutefois, qu'avons-nous fait des hautes directives prescrites par le chef de l'État le 20 septembre 2012 à Guirvidik?
Ces mesures ont été exécutées, mais vous savez, il était question de construire une digue route de 330 km de Gobo à Koussiri. Une bonne partie a été construite, mais les changements climatiques font que nous ne maîtrisons plus rien. Et en plus, là où ces digues sont dégradées, c'était le passage, laissez-moi vous dire, des hippopotames qui passent d'un point à un autre. Il y a même conflit entre hommes et animaux. Ces hippopotames ont eu à tuer plus de deux personnes. Minfor nous a autorisé d'organiser une battue.
Dans son mot introductif, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, a fait sienne cette compassion du couple présidentiel qui n'a jamais fait défaut aux victimes chaque fois qu'une catastrophe frappe des compatriotes. L'élan de générosité de l'élite locale est également à consigner dans cet effort de mobilisation de la solidarité nationale. À l'évaluation des actions menées, il apparaît que les autorités gouvernementales sont toutes mises à contribution pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens suite à ces autres inondations. Gouverner, c'est prévoir. Immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV.
Pour ce qui est de l'assistance d'urgence aux populations frappées par les inondations dans la région de l'extrême nord, le ministre de l'administration territoriale, dès ce jeudi, en visite de travail sur les sites du sinistre pour la Tanganyi, va constater de visu la situation, mettre en place des dispositifs supplémentaires de secours et procéder à la remise du don du chef de l'État aux victimes. Il est à noter que cette catastrophe naturelle a déjà fait plus de 10 morts et pas moins de 200 000 sinistrés. Plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 243 projets réalisés en 4 ans dans le Sud-Ouest pour améliorer le train de vie des populations. La mise en œuvre se poursuit avec l'entrée en scène des autorités locales. C'est ce qui ressort de la deuxième session du comité régional de suivi. Le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilagne, a conduit les travaux ce jour en présence du président du comité de pilotage, Paul Tazon, et du coordonnateur national. Détail, Stéphane Tala.
Promotion de la cohésion sociale, réhabilitation des infrastructures essentielles et revitalisation de l'économie locale. Le plan présidentiel de reconstruction et de développement améliore les conditions de vie des populations du Sud-Ouest. Pierre-Marie Fogap et Nika Chosnkema sont maires des communes d'Alon et de Menji.
L'impact est grand chez nous. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a même encouragé beaucoup de gens qui avaient fui et de rentrer.
Nos hôpitaux. On a 3 qui sont en train d'être reconstruits. Il y a aussi des points d'eau. La population, ils cherchent les matériaux comme le sable et ils fournissent le main d'œuvre pour montrer qu'ils sont contents.
Dans les 6 départements, le bilan affiche 243 projets réalisés entre décembre 2020 et septembre 2024. Le comité de pilotage que préside le ministre délégué à l'économie, Paul Tasson, entend passer à la vitesse supérieure avec l'arrimage du plan aux recommandations issues du Grand Dialogue National. Il est question de mettre un accent sur les projets structurants. Dans cette nouvelle orientation figure l'implication des autorités locales et régionales, ainsi que d'autres acteurs du développement à côté du PNUD. À la tête du comité régional de suivi, le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilagne, exhorte les parties prenantes à s'engager activement afin de faire du PPRD une voie de sortie définitive de la crise sécuritaire telle que voulue par le président de la République. Boya Stéphane Tala, CRTV.
Sur les orientations nouvelles, écoutons le président du comité de pilotage de la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement. Par ailleurs, ministre délégué de l'économie chargé de la planification et de l'aménagement du territoire. Paul Tazon s'exprime au micro de Stéphane Tala.
Maintenant que la stabilité est davantage acquise, il faut commencer à regarder ces éléments qui permettent de remettre l'économie de la région du Sud-Ouest sur les rails. C'est ces grands projets structurants de la région du Sud-Ouest, comme la construction du port autonome de Limbé, comme la construction d'un chemin ferroviaire entre Limbé et Douala, la reconstruction, réhabilitation de la route Bekoko-Limbé-Idinao, la route Loum, Tomber, Kumba et Kondotiti, Monemba, Akwa, la construction de la route Tchang, Bakebe, Manfe.
Paul Tazon, ministre délégué de l'économie chargé de la planification et de l'aménagement du territoire, président du comité de pilotage de la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La ville de Bouya, dans la région du Sud-Ouest, a accueilli ce jeudi la 5e étape de la caravane du film documentaire intitulé Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. La projection grand public de cette œuvre cinématographique a réuni autour du président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafani Mosonguet, près de 2000 téléspectateurs. Et le théâtre de l'événement, c'était le stade Molico de Bouya. Oswald Medoun.
Dans le livre riche d'anecdotes qui relate la relation entre le président Paul Biya et la région du Sud-Ouest, c'est une nouvelle page qui vient de s'écrire à Bouya et pas des moindres. Après Bertois, Douala, Marwa et Bafoussam, c'est au pied du char des dieux que la caravane du film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, a posé ses écrans. En clap d'ouverture, les artistes locaux entretiennent le public sous l'accompagnement de l'Orchestre national. La pluie qui arrose la ville ne douche pas l'enthousiasme des près de 2000 personnes installées dans les gradins du mythique stade de Molico. C'est sur ces entrefaits que commence le ballet des officiels et autres personnalités conviés au spectacle. À son arrivée, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est accueilli par le gouverneur Okalia-Bilagne, le maire de Bouya, le président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest, le parlementaire Tifor Tabetandon, comme s'il s'était passé le mot, décrivent le chef de l'État, un artisan de la paix qui ne ménage aucun effort pour ses populations. Les co-réalisatrices s'émerveillent de l'accueil qui leur est réservé. Sous sa casquette de représentant du ministre des Arts et de la Culture, le délégué régional situe le contexte et l'accompagnement du ministère. Puis viendra l'heure de l'allocution du président de la cérémonie. Peter Mafani Moussonga va égrener le chapelet des réalisations dont la région a bénéficié sous le magistère de Paul Biya. La transition est toute trouvée pour lancer la projection. Près de 90 minutes suivies avec attention par un public conquis. Plusieurs séquences suscitent les réactions d'adhésion. Et déjà, c'est le clap de fin. Le public va encore profiter du spectacle, en animation comme à l'ouverture. Oswald Medoum, Abuja.
Mise à jour du plan national de lutte contre les déversements accidentels des hydrocarbures, le comité de pilotage et de suivi des pipelines a clôturé ses travaux ce mercredi à Yaoundé. Les participants ont planché sur la révision du cadre législatif et réglementaire. Prisca Njang-Mongolo.
15 ans après l'adoption du plan national de lutte contre les déversements accidentels des hydrocarbures, le comité de pilotage et de suivi des pipelines fait sa mise à jour pour la première fois. Objectif, mettre sur la table les moyens efficaces pour anticiper sur les mesures réactives pouvant remédier au déversement d'hydrocarbures, tout en réfléchissant au risque du phénomène sur l'environnement. Par ailleurs, les participants ont échangé sur les stratégies d'intervention en cas de sinistre et sur les sources de pollution sur le plan marin, côtier et terrestre. Un travail de fond effectué pour mettre à jour le plan national de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures en 5 axes majeurs. La révision des textes législatifs et réglementaires, le schéma de commandement, la stratégie d'intervention en cas de sinistre, la revue des sources de pollution et la prévention. En clôturant les travaux, Igor Emmanuel Soya Bisaya, représentant de l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, par ailleurs président du comité de pilotage et de suivi des pipelines, a émis le souhait que les recommandations formulées à l'issue de ces travaux soient mises en œuvre dans les meilleurs délais.
Sécurité fin cet après-midi à Yaoundé de la 4e session du comité des chefs de police d'Afrique centrale. Les assises de ce jeudi étaient marquées par l'entrée en fonction du nouveau président en exercice en la personne de Martin Bargangele. Le délégué général à la Sûreté nationale salue les avancées enregistrées en matière de coopération policière entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. C'est dans cet extrait de discours sélectionné par Constance.
Nous réussissons du fonctionnement harmonieux du mécanisme des liens de police à police qui facilite l'extradition des malfaiteurs recherchés par nos polices et saluons à sa juste valeur la signature récente d'un accord de coopération en matière de police criminelle entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Dans ce contexte, l'examen des résolutions de la 3e session sécuritaire ordinaire du CCPAC tenue l'année dernière et des recommandations issues des différentes réunions techniques des questions policières du CCPAC devraient aboutir à des propositions pertinentes et adaptées à l'intention du forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale qui va se réunir demain.
Martin Bargangele, délégué général à la Sûreté nationale, qui rappelle que le 24e forum de cette instance se tient demain vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce sera sous la présidence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Heures passées de 18 minutes, vous êtes sur le poste national de la CRTV. Venons-en, j'y arrive. Au dossier du soir sur la 45e journée mondiale du tourisme, le 27 septembre prochain, le département du Mfundi se démarque et lance les activités à Yaoundé. Les acteurs de ce secteur de développement socio-économique se sont accordés sur la nécessité de donner au tourisme camerounais une nouvelle envergure. Christopher Nkemeni.
Véritable vitrine qui doit valoriser et vendre l'image de marque du Cameroun, le département du Mfundi, siège des institutions nationales, a pris les devants pour donner le la de la célébration de cette 45e édition de la Journée mondiale du tourisme au Cameroun. Les acteurs se sont mobilisés pour mener la réflexion autour du thème retenu cette année, à savoir tourisme et paix, Jean Capse, dit Kajiro, hôtelier.
Nous n'avons pas attendu ce moment pour nous rassurer que la sécurité doit faire priorité de nos activités.
Ils ont été interpellés sur leur contribution à la préservation de la paix. Le deuxième adjoint préfectoral du Fundi, Alain Essou.
Quand on vient dans le Fundi, pour se repérer, partout nous voyons les plaques, on sait comment s'orienter. Vendre l'image de l'hébergement de qualité, la sécurité doit y être, la salubrité. Et ce n'est que de cette manière que chacun de nous, en ce qui le concerne, apportera un plus et valorisera le Cameroun.
Autre défi à relever, celui de la qualité du service. Le délégué départemental, Mahama Boukar, et son équipe s'attellent à rappeler à l'ordre les promoteurs afin que tous s'alignent pour le grand bonheur des bénéficiaires, que sont les touristes et autres usagers.
L'Adamawa, aux énormes potentialités touristiques, en plus de son statut de région château d'eau du Cameroun, porte encore les stigmates d'une certaine instabilité due à l'insécurité entretenue par les enlèvements avec demande de rançon. Une situation qui n'est pas pour développer le tourisme dans cette partie du pays, malgré les efforts des pouvoirs publics. Oumarou Kadili, de Certivia Adamawa.
Région Carrefour qui sert de jonction entre la partie septentrionale et méridionale du pays, que ce soit par voie routière ou par rail, l'Adamawa, de par cette position que lui confère sa situation géographique, est donc ce lieu par excellence de transit d'une bonne majorité de touristes. Un acquis malheureusement mis à mal ces dernières années suite à l'instabilité et à l'insécurité engendrée par le phénomène d'enlèvement avec demande de rançon. Soibou Elite explique.
Les villes reçoivent par dizaines des populations paysannes qui fuient cherchant refuge dans les villes.
Une surpopulation des centres urbains marquée par le ralentissement de l'activité touristique où les localités généralement cibles des ravisseurs ne peuvent plus dans ces conditions offrir leur hospitalité aux éventuels visiteurs.
L'activité est très diminuée, nous en souffrons.
Face à ce constat peu reluisant, les autorités en charge du tourisme et des loisirs dans la Damawa s'y attellent. Oumar Ousanda Aboubakar est le délégué régional.
C'est l'un des secteurs le plus touché. Il y a eu des descentes sur le terrain pour contrôler et évaluer des potentiels de retour à l'activité.
Voilà qui contribuera à relancer le tourisme dans cette partie du pays comme pilier crucial du développement et du progrès. Ngaoundéré, Oumar Oukadili, CRTV.
Le tourisme, au sens littéral du terme, n'est ni plus ni moins que la rencontre de personnes désireuses de comprendre leurs différences et leurs points de vue respectifs. Toute chose qui ne peut s'opérer que dans un environnement de paix. L'objectif étant de créer une opportunité de dialogue, de compréhension mutuelle. Tourisme et paix, deux faces d'une même médaille, nous dit Augustine Bassam.
C'est une lapalissade, un environnement de paix rassure. Ce n'est que dans un tel contexte que peut véritablement prospérer l'activité touristique dont le but est de rassembler les peuples, ouvrir les cœurs et les esprits. Le tourisme, en fait, est un vecteur de confiance et de bonne volonté qui peut jouer un rôle déterminant dans la consolidation de la paix et l'appui des processus de réconciliation. C'est en fait en comprenant la culture que l'on peut changer les comportements et consolider la paix. Pendant des décennies, le Cameroun a été qualifié de havre de paix où toutes les nationalités pouvaient entrer et sortir sans soucier, bénéficier de sa diversité sur le plan humain, linguistique, physique et écologique. C'est la même qui fait d'elle l'Afrique en miniature et que d'aucuns qualifient aujourd'hui de continent. Mais avec l'arrivée du groupe terroriste Boko Haram et les mouvements sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest, le doute s'est emparé des peuples et l'activité touristique a pris un coup au Cameroun. Toutefois, le processus de reconstruction des régions en crise, de lutte contre l'insécurité et la grande criminalité engagée par le gouvernement suscite de l'espoir. Ce qui pourrait d'ailleurs édorer le blason du tourisme au Cameroun. Il faut peut-être le souligner, le tourisme en lui-même draine un fort potentiel de promotion de la paix, notamment dans les sociétés en conflit. Toute chose qui nécessite cependant une synchronisation d'action entre les pays, les politiques, le secteur privé et la société civile.
La paix est le leitmotiv de cette 45e édition de la Journée mondiale du tourisme. Elle était au centre de la conférence de lancement ce matin à Yaoundé. Elle est également développée par l'invité du soir, le délégué départemental du tourisme et des loisirs pour le Mfundi, Mahamat Ababoukar, s'entretient avec Christopher Nkemeni.
Mahama Ababoukar, délégué départemental du tourisme et des loisirs pour le Fundi. Nous sommes en plein dans la célébration de la 45e journée mondiale du tourisme. Quels sont les atouts de votre secteur en ce moment?
Le département du Fundi siège des institutions de la République du Cameroun concernant les potentialités touristiques se positionne en une grande niche. Nous nous positionnons compte tenu également des différents secteurs.
Qu'est-ce qui est fait dans le Fundi pour que quand un touriste vient d'arriver ait la facilité de savoir où manger du bon poisson, où visiter ceci, où loger ceci? Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là?
Le département du Fundi a toute une carte hôtelière avec ses différentes structures, avec cette carte hôtelière qui donne avec exactitude, surtout avec précision, sur le plan de sites touristiques qui offrent aux visiteurs des merveilles de la nature, que ce soit sur le plan offre hôtelière. Nous partons de 5 étoiles jusqu'à 1 étoile. Mais le défi dont nous sommes donnés, c'est beaucoup plus accompagner ces acteurs dans le respect des normes prescrites par l'Organisation mondiale du tourisme encadrées par la loi, à savoir déjà améliorer la qualité des services dans ces différentes structures pour attirer ces différents visiteurs.
On note justement une multiplication, une croissance exponentielle du nombre d'établissements hôteliers et touristiques en général dans votre zone de compétence. D'aucuns disent qu'il y a la quantité et non pas la qualité.
J'invite les touristes à venir toucher du doigt la réalité. Nous nous félicitons chaque fois de les remettre à un niveau élevé pour sauver effectivement l'image du secteur du tourisme. Il y a toujours les brebis galeuses. On ne peut pas dire que nous sommes à 100%.
On décrit beaucoup le manque de professionnalisme.
Il est question ici de revaloriser le savoir-faire des professionnels dans ce secteur.
Qu'est-ce qui peut être fait afin que tout aille pour le mieux?
On doit, avec des acteurs, sauver d'abord cette image du professionnalisme. Il est question, quand on investit dans ce secteur, de s'entourer de ceux qui ont le savoir et savoir-faire dans ce domaine. J'interpelle les acteurs, les promoteurs et les professionnels d'être un grand levier, déjà une leçon, mais qu'ils poussent encore davantage ce dynamisme pour relever le niveau du tourisme dans notre département qui est siège des institutions de la République, par-delà dans notre pays, le Cameroun.
Ababoukar, merci.
Bref, éducation. 2 semaines après la rentrée scolaire, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques fait une descente sur le terrain. L'organisme évalue la qualité et la disponibilité des livres mis sur le marché pour l'année scolaire en cours. L'équipe d'experts a visité les librairies et autres espaces marchands pour constater que les livres sont disponibles. L'excellence scolaire célébrée dans la commune d'Ayos, département d'Union Infoumou, la cérémonie de remise de bourses académiques aux lauréats du baccalauréat 2024 aura lieu jeudi prochain, 26 septembre 2024 à 11h au foyer municipal d'Ayos. L'initiative est des élites locales sous la conduite du maire, par ailleurs président de la section RDPC Nyon Infoumou Nord, Paul Ndongobiko, qui invite les lauréats, les chefs d'établissement scolaire, les parents et les responsables du parti à la base à prendre part à cette fête de l'excellence scolaire. Nécrologie. Derniers hommages au commissaire divisionnaire Simon Nguewo Nana, décédé le 17 août dernier à Yaoundé. L'esplanade de l'École nationale supérieure de police a servi de cadre à la cérémonie que présidait le délégué régional à la Sûreté nationale du Centre, Josué Osomo, représentant le délégué général à la Sûreté nationale, Clarisse Ndjanga.
Après 81 années d'existence, dont 25 au service de la nation, le commissaire divisionnaire Simon Nguewo Nana quitte la scène le 17 août 2024. Derrière lui, une riche carrière professionnelle, une famille éplorée.
C'est un déchirement, c'est très déchirant, mais on va tenir le coup.
Stella Nguewo, fille du défunt.
C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la famille, l'unité, un aîné d'une très grande famille, un pilier et un trait d'union entre beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Nous gardons de lui qu'il faut s'aimer, il faut apprendre à vivre ensemble et il faut se tolérer les uns les autres.
À l'unisson, amis et proches ont accompagné à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police celui qui fut tour à tour chef de service des enquêtes économiques et financières à la direction de la police judiciaire et chef de service de la logistique à la direction de la sécurité publique. Mais c'est en 1973 que démarre sa vie professionnelle menée pour l'essentiel à Yaoundé avant d'être admis à la retraite en 1998. Au nom du délégué général à la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire Josué Osomo, délégué régional de la Sûreté nationale du centre, s'est prosterné devant la dépouille. Le commissaire divisionnaire Simon Gwonana sera inhumé dans son village natal à Bangoua, dans la région de l'Ouest, ce samedi 21 septembre.
En sport, CR TV et FECA Cyclisme, main dans la main pour le Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2024. Le directeur général de la CR TV, Charles Ndongo, et le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, ont signé un protocole d'accord de partenariat pour l'exploitation de la plateforme web du jeu CR TV Win Up au cours de la compétition qui va se dérouler du 1er au 5 octobre prochain. Les documents de ce partenariat a été paraffé ce jour à la maison de la radio à Yaoundé. Après la couverture du CHAN et de la CAN, la CRTV va continuer à mener ses missions de service public avec la petite reine. Assurance du directeur général de la Cameroun Radio Télévision, Charles Ndongo, que nous écoutons dans cet extrait de déclaration sélectionné par Didier Marius Etundi.
La CRTV est prête. Média au cœur de la nation camerounaise. Ouverte à l'Afrique et au monde, la CRTV est prête pour accompagner le mouvement sportif camerounais et apporter sa part au rayonnement du sport en Afrique et dans le monde en général. La CRTV est à niveau désormais pour offrir une production et un transport du signal audiovisuel des événements et ceci dans les standards internationaux. Le gouvernement, à l'occasion de la CAN féminine 2016, du CHAN 2021, et de la CAN Total Energy 2021 a acquis des équipements de production audiovisuelle aux normes internationales. Le président de la République, ayant décidé de la rétrocession de tous ces équipements à la CRTV, nos équipes ont donc été mises à contribution à l'époque pour la production du signal audiovisuel des CAN et CHAN au Cameroun, privilège généralement réservé aux grands producteurs audiovisuels occidentaux. C'est le lieu pour moi de redire ma profonde gratitude au chef de l'État, le président Paul Biya.
Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Cette décision, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative décide. Monsieur Selbon Minkat Raphaël Leblanc, agent contractuel en service à la délégation régionale de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour le Centre, est à compter de la date de signature de la présente décision, suspendu de ses fonctions et de toutes autres activités pour une période de 4 mois pour agissement contraire à l'éthique et à la déontologie professionnelle, notamment dans le cadre de la réception et de l'enregistrement des dossiers de candidature aux différents concours administratifs. Pendant sa période de suspension, l'intéressé ne percevra ni solde ni accessoire de solde, sauf le cas échéant les prestations pour charges familiales. Au terme de sa suspension, l'intéressé ne pourra reprendre le service que sur autorisation expresse du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le directeur des Affaires générales, le chef de la division de la discipline et du contentieux, le délégué régional de la fonction publique et de la réforme administrative pour le centre sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. C'est signé Joseph Lé. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, pour sa part, décide, sont à compter de la date de signature de la présente décision, nommés au poste de responsabilité ci-après, à la coordination nationale du projet d'insertion socio-économique des jeunes par la création des micro-entreprises de fabrication du matériel sportif PIFMAS. Coordonnateur national, M. Kounkatre Meakono Ntandoumou Ngouam José, conseiller principal de jeunesse et d'animation, précédemment en service à la direction de la promotion économique des jeunes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, poste créé. Assistant du coordonnateur, Monsieur Ncho Mbinkir Claude Yuwong, conseiller de jeunesse et d'animation, précédemment en service à la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique du Nord-Ouest, poste créé. Unité en charge des affaires administratives, financières et juridiques. Chef d'unité, Madame Konginjol Rose Fernande, conseiller principal de jeunesse et d'animation, précédemment délégué d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Mfou, au poste créé. Unité de l'accompagnement, chef d'unité, Monsieur Pendafis Pierre Daniel, cadre contractuel d'administration, précédemment en service à la direction de la promotion économique des jeunes du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, poste créé. Unité en charge de la coopération, du suivi et de l'évaluation, chef d'unité, Madame Zou Thérèse Nicole, épouse Bitoto, conseiller principal de jeunesse et d'animation, précédemment en service à la direction de la promotion économique des jeunes du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, poste créé. Unité en charge de la vente, de la communication et des relations publiques, chef d'unité, Monsieur Souleyé Patissou, conseiller de jeunesse et d'animation, précédemment chef de service des affaires générales à la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique de l'extrême nord, poste créé. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. C'est signé Mounouna Foutou, le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique. Retenir de ce journal, attaque terroriste ce jeudi à Bamenda, un mort et 6 blessés, dont un bébé de 11 mois, tous pris en charge dans les hôpitaux de la ville. Inondation dans la région de l'extrême nord, de nouvelles mesures préventives envisagées par le gouvernement. C'était ce jour au cours d'une réunion interministérielle présidée par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale annoncé pour la remise du don du chef de l'État aux sinistrés. Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Ce film documentaire était projeté ce jeudi à Bouéa. Parmi les nombreux spectateurs, Peter Mafani Moussonguin, président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. 20h36, fin de ce journal. Technique, Chrétien Foucault. Réalisation, Christine Victoria Penda. Assisté devenant Pascal Beyogo, stagiaire de l'Estique. Rédacteur en chef, Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah. Merci, passons d'agréables moments avec la CRTV.